Beyoncé doesn't care about black tour guides.
Ah, c'est pour ça que c'est pas cher.
Bah, bien sûr, la meuf vient au Louvre, qu'est-ce qui se passe? On est une poignée à avoir une carte de conférencier, rien, elle fait pas croquer la famille. Next.
Elle est pas très QLF, elle.
C'est ça.
Ouais.
Un petit bruit buccal.
Rendez-nous les chips.
Subtilement dosé. Le chip est en danger.
Le chip?
Le chip. Vous écoutez.
Le chip. Vous écoutez.
Le podcast afro d'Arte Radio.
Quoi? Comme.
Bonjour à tous, vous écoutez Le Chip, le podcast pop culture noire d'Arte Radio. Je m'appelle François Houlac et comme à chaque fois, je suis avec la fine équipe Mélanie Manga. Mélanie, comment vas-tu?
Ça va, ça va, ça va.
Et Kevin Donna.
Go!
Oui, le cri de Kevin tout à fait à propos, puisque cette semaine, on va forcément mouiller le maillot pour la Coupe du Monde. Et pour l'occasion, on a un invité de marque pour ça, Abdallah Swadri. Comment vas-tu?
Ça va et toi?
Ça va très bien, ça va très bien. Cette semaine, donc, on va parler de Coupe du Monde, de football et notamment du rapport de l'équipe de France avec ses joueurs, mais pas seulement ses joueurs, également ses supporters noirs. C'est bien ça, Kevin?
C'est tout à fait ça.
Et puis ensuite, qui dit 2018 dit 98.
Ouais.
Donc Mélanie va nous faire un petit throwback, un petit retour en arrière.
Exactement, retour vers le passé.
Une petite Madeleine de Proust sur 98 et comment on vivait cette année, l'année où on a gagné notre notre Coupe du Monde. Quoi de neuf depuis la dernière fois?
Moi, je suis pris dans la Coupe du Monde et dans les paris, dans les pronostics. Je suis accro à mon petit prono. Et hier, j'ai fait un petit exploit. Parce que j'ai prédit la victoire du Mexique 1-0 contre les champions du monde allemands. Ça m'a valu 146 points.
Pas mal.
Ah, j'ai cru que tu allais dire 146 euros. J'ai fait...
Bah, du coup, j'hésite à parier de l'argent maintenant.
Non, faut
je
pas.
Je me demande si je ne vais pas finir par tomber dans l'engrenage.
Et toi, Mel, what's up?
Eh ben moi, ça va, à part que il y a 4 jours, j'ai vu un pote et il n'arrêtait pas de chanter la chanson Africa de Toto. Je sais pas si vous connaissez cette chanson. Exactement. Gonna take a lot to take me away from you. Ouais, cette chanson horrible. Et du coup, en fait, j'ai dû l'écouter pour l'enlever, enfin pour me l'enlever de la tête. Et en fait, je l'ai écouté 75 fois d'affilée.
T'as vraiment compté les 75 fois?
C'est pas
fois.
Comme ça que ça marche. Hein.
Sur Spotify. Bah, moi, généralement, c'est comme ça que ça marche. Mais en fait, c'est vraiment une chanson assez envoûtante, mais du mauvais côté, quoi. Du coup, j'ai un peu fait quelques recherches sur cette chanson. Et c'est une chanson écrite par une personne blanche. Donc. qui, de son propre aveu, a été inspiré par les pubs UNICEF. Et du coup, il a dit en gros, oh, j'ai vu des Noirs dans cette pub et ça m'a beaucoup touchée. Donc j'ai écrit Africa et j'ai rêvé à l'Afrique. Pour info, cette chanson était censée être une B-side en fait, de l'album Toto Fort. Et c'est devenu leur plus gros tube. On pouvait pas y échapper dans les années 80 et on peut pas y échapper maintenant, visiblement. C'est vachement repris. Je sais qu'il y a Weezer qui l'a repris et ils ont fait leur premier tube dans le Billboard depuis 10 ans, grâce à ça. Donc voilà, c'est Africa, c'est un peu l'hymne du blanc qui va en Afrique, le pays n'est pas défini où il va, hein. Et il ulule cette chanson les cheveux au vent, voilà.
Donc et tu leur as donné 75 streams, plus l'insert qui va arriver.
autant streamer Extentation tout de suite, hein. Abdallah, what's up? Je t'ai pas présenté, tu es animateur du podcast Banquette sur Nouvelles Écoutes qui parle de football.
C'est ça, exactement.
Et tu es également journaliste sur Football Stories, la verticale foot de Combini.
T'es très bien informé.
Quoi de neuf ces derniers jours pour toi?
Bah écoute, un peu comme Kevin, là je suis full Coupe du Monde. J'essaie de regarder un peu tous les matchs. J'avoue que je me suis endormi devant c'était quoi le match Costa Rica Serbie.
On peut pas t'en vouloir pour ça.
Après le premier but. Mais ouais beaucoup de Coupe du Monde et aussi je suis pas mal dans le Kanyeverse là en ce moment là.
Ok.
Avec tous les albums qui sortent et j'écoute ça un peu en boucle. Donc c'est Coupe du Monde Kanye, Coupe du Monde Kanye.
C'est juste comme ça. C'est lequel ton préféré là du Kanyeverse en ce moment?
J'avoue celui de Pusha T quand même. Moi je suis un gros fan d'Eclipse à la base.
D'accord.
Et là il m'a mis d'accord.
Ah là tu fais plaisir. Là, voilà. Fais plaisir.
Alors j'ai juste un truc à souligner. Vous êtes à fond dans la Coupe du Monde mais je suis la seule avec un maillot de l'équipe de France ce soir. Hein.
Un magnifique maillot floqué au nom de Blaise Matuidi.
Charo.
Charo, Mélanie Charo.
Charo.
C'est la classe. Tu mouilles le maillot, tu comptes pas l'effort. Bon, alors pour les contrôles techniques, les gestes, les trucs comme ça, on repassera. Mais par contre, vraiment, l'esprit d'équipe, quoi.
Putain. Bon, ok.
Stop, passons au trash ou iconique.
Le trashico.
Trash ou iconique?
Le trashico.
Le trashico.
Mais Annie, tu voulais nous parler de Beyoncé pour ton trash ou iconique.
On peut pas y échapper, hein. C'est le chip. Beyoncé, c'est un peu notre marraine. Hein. On se rappelle qu'on a appris la naissance des jumeaux en direct live il y a quelques mois. Donc, je sais pas où vous étiez, vous, quand on a appris que Beyoncé sortait un nouvel album ces derniers jours.
Alors, dimanche matin, je me réveillais, j'ai
vu ça. Sûrement en train de dormir.
Moi, j'ai vu ça dimanche soir dans la rue. Je rentrais.
Il y a quelqu'un qui t'a dit.
Non, j'étais sur Instagram, sur une vidéo et tout. Je suis là, mais c'est quoi ce son? Il est archi lourd. Et je vois impossible de trouver l'album et tout. Finalement, je l'ai pris un peu plus tard, mais ouais, pas mal.
D'accord. Parce que bon, on dit Beyoncé sort un album. Bon, en fait, en vrai, c'est un co-joint avec Jay-Z, mais soyons honnêtes, c'est plus un featuring. Les gens attendaient surtout un album de Beyoncé. Voilà. On peut récapituler vite fait. La tournée On The Run 2 a commencé il y a quelques semaines. Et du coup, c'est lors du concert, leur deuxième concert à Londres, que l'annonce est tombée. Nouvel album disponible, appelé Everything Is Love, donc par The Carters. Du coup, tout le monde sur le pont, tout le monde sur Tidal, hein, c'est un peu le Spotify de Jay-Z.
Non, maintenant c'est sur Spotify aussi.
C'est vrai? Ah bon? Parce que j'ai cherché tout à l'heure et c'était une fausse playlist avec Crazy in Love dessus.
Je peux résilier mon abonnement à Tidal. Là.
Tout à fait. Tu peux virer ton abonnement gratos que t'as pas écouté l'album. Moi, je l'ai écouté sur Spotify. Ouais.
Bon, voilà, Spotify du coup, pour écouter l'album aussi et regarder la vidéo du single sur YouTube. Ape Shit donc. Petit mot sur Ape Shit, Beyoncé et Jay-Z ont loué le fucking Louvre hein, quand même pour tourner ce clip. Alors moi j'ai un pote que je ne nommerai pas ici pour des raisons de sécurité, qui était au courant en fait que Beyoncé était à Paris, fin mai, mais qui me l'a avoué que hier, parce qu'il avait peur que le bodyguard de Beyoncé le retrouve et lui casse les dents quoi. Donc, on peut juste dire que le clip de Ape Shit rend hommage à l'art, tout d'abord hein, en fait, on y voit Mona Lisa, le couronnement de Napoléon, la Vénus de Milo, le radeau de la Méduse, et même la pyramide du Louvre, entre autres. Mais c'est aussi et surtout un hommage en fait, aux corps noirs, qui sont un peu les grands absents de la peinture européenne hein, entre la Renaissance et le XXe siècle. Et donc, Beyoncé et Jay-Z, ils sont sapés comme jamais. Il y a des danseurs, des danseuses de toutes les couleurs qui sont fluides et qui dansent sur les marches du musée. Donc c'est très beau. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé.
J'ai bien aimé le clip, je suis un peu fâché avec Beyoncé.
Oui, tu nous en diras plus parce que moi aussi, elle commence un peu à... Mais bon.
Et pas pour les mêmes raisons, je pense.
Ok. Donc ouais, ce projet d'album commun entre les deux superstars, ça traînait un peu depuis 2015 dans les cartons, mais Beyoncé a été tellement chauffée en fait par les infidélités de Jay-Z qu'elle a sorti Lemonade avant. Et du coup, Everything Is Love sort donc maintenant et ça complète un peu cette trilogie Lemonade, 444 et donc Everything Is Love sur leur déboire conjugaux. Je trouve que Everything Is Love, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le titre, on dirait que c'est un peu inspiré d'un tweet de Kanye West en mode gourou du développement personnel. Quoi. Ouais. Je me suis dit, ah là là, peut-être qu'il va les poursuivre en justice. Bon. Voilà. Donc, il y a 9 chansons. C'est aussi un peu l'été des albums courts. Quoi. On ne dépasse plus 10 chansons.
Il a totalement surfé sur la vague de Kanye. Enfin, c'est lui qui a lancé la trend des
il
albums.
Il lui a tout volé chansons, enfin. Et du coup, c'est vrai que le titre Ape Shit, c'est clairement la tête d'affiche hein, de l'album. Il y a un casting, on va dire, 5 plus étoiles. Pharrell Williams, Les Migos, Ty Dolla $ign, des producteurs de Lemonade, en veux-tu, en voilà, hein, tout le monde est content. En termes de paroles, on ne va pas tout dire, mais en vrai, on oscille un peu entre la fin de règlement de compte sur le canapé, un peu. C'est...
le make-up sex.
Voilà. Et il y a quand même quelques 10 envers d'autres stars. Donc, bon, moi, je trouve que personnellement, c'est des 10 un peu de cinquantenaire. Quoi. Jay-Z qui dit ah, pourquoi vous n'êtes pas venu sur Tidal? Enfin, tu vois, c'est bon, quoi. Et oui, on n'est pas allé au mariage de Kim et Kanye parce qu'on était en train de se battre. Donc voilà, fallait qu'on se répare d'abord. Et Beyoncé, vite fait, quant à elle, dit à Spotify d'aller se faire voir et qu'elle mettra jamais les monnaies dessus. Donc RIP pour tous ceux qui attendaient. qu'elle est riche, qu'elle a failli tuer Jay après avoir rencontré la meuf avec qui il l'avait trompée. Donc la fameuse Becky with the good hair dont on se souvient tous avec émotion. Et elle nous dit aussi que nos amis sont pourris et que les siens sont géniaux. Et elle nous rappelle aussi quand même qu'elle est riche à la fin, encore. Et voilà, on a un petit big up de Blue, de Sœur et de Rumi. Donc pour ma part, c'est un iconique que je dédicace au patron d'Arte Radio, Sylvain Gir, qui n'en a rien à foutre de Beyoncé et nous dit d'arrêter de parler de Beyoncé dans cette émission. Mais bon, quand même, c'est un peu trash. Je mets une petite astérisque, c'est un peu trash parce que la trilogie du Love, comme tu disais François dans une précédente émission, en fait, on s'en fout un peu, quoi. Enfin, passer à autre chose, on a compris, vous aimez, des fois vous aimez plus, mais bon, voilà, next, quoi.
Quelqu'un a quelque chose à ajouter? Moi,
j'ai un truc à ajouter.
Oui.
Beyoncé doesn't care about black tour guides.
Ah, c'est pour ça que t'es
fâché. Bah, bien sûr, la meuf vient au Louvre, qu'est-ce qui se passe? On est une poignée à avoir une carte de conférencier, rien à fait pas croquer la famille. Next.
Elle est pas très QLF, elle.
C'est ça.
Alors moi j'ai un petit iconique. Ce week-end, Niska était en concert à Ivry-sur-Seine en région parisienne. Le rappeur de Rezo, le rappeur de Mathieu Dicharo, le rappeur de Sapé comme jamais, je pense que j'ai pas besoin de vous le représenter. Et ça a venu à provoquer une petite polémique lancée par des citoyens d'Ivry-sur-Seine, épaulés par une association qui s'appelle Femmes Solidaires. En fait, ces gens accuse Niska de tenir des propos misogynes dans plusieurs de ses morceaux, notamment la Wear ou d'autres morceaux de ce style.
Les petites veulent pomper ma verge, elle a de cause mais elle est fière. Elle veut des loups, elle fait le tapin, elle s'est tapé le gommet de ses copines. Je suis sur les sentiers avec mes chameurs, bâtard, tous broniqués dans la cabine. Aristocratie, j'en ai rien à battre, je suis dans le trafic de shit et de nana. Je fais des péchés mais je demande pardon, et le vendredi je suis en djellama.
C'est marrant que cette polémique arrive juste après celle de Méline au Bataclan. Si on remonte un petit peu, il y avait également la polémique dont on a parlé dans le chip de Damso et l'hymne de la Coupe du Monde des Belges. Bref, y a pas une, on a l'impression qu'il n'y a pas un mois qui se déroule sans que le rap soit au milieu d'une polémique, à mon sens, injuste et un petit peu stérile. Mais je vais décerner un iconique, en fait, au lieu d'un trash aux associations, je vais donner un iconique au maire d'Ivry-sur-Seine, Philippe Bouissou, étiquette PCF, il en reste, qui a dit, interviewé par Le Parisien, qu'en fait, il comprenait la polémique et que lui-même n'était pas spécialement fan de Niska, mais qu'il voyait avant tout la joie qu'il apportait à la jeunesse de sa ville de faire venir Niska pour un concert, que je précise, qui est gratuit, parce qu'en fait, c'est pour la fête de la ville, et donc c'est un concert caritatif totalement gratuit pour tous les habitants. Donc Niska vient vraiment pro bono, comme on dit. Et surtout, il a trouvé également que c'était un peu bizarre de faire ce procès à un rappeur, je le cite. Je crains fort que l'on soit beaucoup plus enclin à fouiller sévèrement dans la discographie des rappeurs de banlieue qu'envers des bonnes formes plus polissées mais qui ne sont pas plus valorisantes pour l'image de la femme. Et qu'est-ce qu'il prend en exemple? Il prend en exemple Mélissa de Julien Clerc.
On déconnait là-dessus il y a deux semaines.
On déconnait là-dessus il y a deux semaines. Je pense que Philippe Bouissou, PCF, écoute le chip. Et donc il ajoute, il a une bonne petite tête de gendre idéal, en parlant de Julien Clerc, mais moi personnellement je trouve que ce qu'il dit dans sa chanson est tout aussi choquant. Donc je donne un iconique à Philippe Bouissou, qui est pour moi l'allié blanc de la semaine.
Ouais, alors moi ce sera aussi un iconique, et c'est le maillot du Nigeria. Comme le dit l'équipe, le Nigeria ne gagnera sans doute pas la Coupe du Monde de football, mais celle du style, oui. Le maillot édité à 3 millions d'exemplaires a été en rupture de stock en précommande. Vous l'avez vu, le maillot, à quoi il ressemble?
Ouais.
Donc c'est avec des motifs chevrons noirs sur les manches et verts sur le torse. Et le maillot des Nigérians de 2018, en fait, rappelle celui de l'équipe historique de la Coupe du Monde 1994, qui avait été, je crois, la première, je parle sous ton contrôle, la première équipe africaine à se qualifier pour des huitièmes de finale.
Ouais, 94, en plus, c'est leur première Coupe du Monde. C'est la première fois qu'ils participent à une Coupe du Monde et ils se qualifient pour les huitièmes de finale. Ils font sensation et je crois qu'ils se font sortir contre une équipe qui va à peu près en demi, un truc comme ça.
Ouais. Attends, t'as sorti cette tête, Abdella?
Non, j'avais noté. Je suis venu avec mes notes.
Ok, d'accord, ok. Ce qui est cool derrière tout ça, ce côté un peu rétro avec cette équipe mythique du Nigeria 94 et puis ensuite 96, ils gagnent les JO aussi, c'est que le maillot en rupture de stock, au Nigeria, il coûte le même prix qu'ailleurs, c'est-à-dire environ 100 dollars. Mais on le trouve quand même dans les rues de Lagos. Qu'est-ce qui se passe?
$100. The jersey is quite expensive for most football fans in a country where the minimum wage is just around $50. But it's now common to spot fans with a jersey in the streets of Lagos. So where are they getting it from and how are they able to afford it?
I got this top from a friend who helped me buy it by the roadside. It's cheaper.
Il y a une télé nigériane qui a mis un petit sujet sur YouTube. En gros, ils vont suivre des types qui fabriquent le maillot au Nigeria. Et donc, tout le monde peut se procurer le maillot. Et ça coûte à peu près à produire chez un tailleur local environ $8. Donc, comparé aux $100 pour le prix du maillot, ça m'a inspiré. Et du coup, je pense que moi aussi, je vais en acheter un la semaine prochaine à Château Rouge.
Voilà.
Ouais, au plus, ouais, ça, je peux trouver ça, ouais.
Donc, Kevin, on le sait, t'aimes le stand-up, mais t'aimes aussi le foot. Donc, t'es un fan de foot.
C'est ça.
Et t'écoutes Banquette, c'est ça?
Alors, je suis un fan de foot depuis... Je suis les Girondins de Bordeaux depuis une vingtaine d'années.
C'est un peu compliqué, hein?
On va parler de ton cas un peu plus tard. 1996, quart de finale contre le Milan AC, tout ça, la classe. Bref. Donc oui, j'écoute des podcasts de foot. J'ai commencé par Passement de Jambes, P2J pour les intimes.
P2J.
P2J. On passe un bisou à Martin. Ils font plein de choses formidables, notamment Auréole qui est au Ground Control. C'est une exposition sur, qui mélange art de la Renaissance et football, toute la ferveur autour de la Coupe du Monde. Et puis, j'ai aussi découvert Banquette.
Régalez-vous. Et vous avez le pied au niveau de la chaussure. On reste dans le cadre d'une finale, je n'en veux plus. C'est clair?
Voilà. Non, j'ai pas touché.
C'est déjà trop.
Non.
Véritable trouvaille. Parce qu'en fait, tu parles de foot, mais tu te perds pas dans l'actualité, en fait. Parce que tout va très vite dans le foot. Toi, tu prends un peu du recul. Tu t'en fiches de savoir si Neymar va signer au Real Madrid, c'est ça ou...
Non, on s'en fout. En fait, c'est le parti pris du podcast. C'est qu'on s'en fout un peu de l'actu. À part là, pour la Coupe du Monde,
on a... rien à foutre.
On est vraiment obligé. Mais sinon, c'est vrai que pour les épisodes un peu classiques, on se détache vachement de l'actu. On essaie de prendre le temps avec l'invité, parler de lui, de ce qu'il a fait, de ce qu'il aime en général. Et ce que je leur dis à chaque fois avant d'enregistrer, c'est que si on peut parler de tout sauf de foot, c'est très bien aussi, quoi. Donc on essaye vraiment de mettre le foot. C'est juste un prétexte pour parler avec des gens qui sont dans ce milieu-là. Ouais.
Ça tombe bien parce que, en fait, aujourd'hui, on a envie un peu de profiter de la Coupe du Monde pour aborder le rapport très particulier qu'entretient le football français et les Noirs en général. Et c'est pas un épisode sur le racisme dans le football, c'est pas un épisode où on va parler de l'accent africain de Julien Cazard, c'est pas un épisode par exemple non plus sur l'exploitation des joueurs africains. Pour ça, je recommande l'épisode 38 de Banquette, où tu reçois Christophe Glaise pour parler de son livre Enquête, Magic System, l'esclavage moderne des footballeurs africains, sujet passionnant. Ce dont je veux parler aujourd'hui, donc c'est vraiment ce rapport qui, pour moi et à mon avis les gens de ma génération, rapport entre équipe de France et Noir, ça oscille entre le doublé de Thuram contre la Croatie en 98 et les débats sur le trop grand nombre de joueurs africains dans le football français.
Le débat qu'on aime.
Ouais.
Du coup, il y a quelque chose qui pour moi est assez fort en ce moment, depuis quelques mois. Si vous passez par l'A3 du côté de Bondy, vous ne pouvez pas manquer un immense mural à l'effigie d'un jeune homme noir, un certain Kylian Mbappé. Et en fait, en collaboration avec son équipementier, Nike, la ville de Bondy est super fière d'afficher ce message « Bondy, ville des possibles ». Du coup, ça a inspiré pas mal d'articles sur ce sujet-là. La semaine dernière, le New York Times a consacré un long article, on vous mettra le lien, bien évidemment, un long article à ce sujet-là, traduit en espagnol et en français, intitulé en VO « The Boys from the Banlieue ».
J'adore l'article anglais, il est trop bien.
Et le titre en français, c'est « Bleu des banlieues ». Donc du coup, les deux journalistes, Rory Smith et Eliane Pelletier, rappellent que Bondy est en Ile-de-France et que pour beaucoup... 93, la Seine-Saint-Denis, ça rappelle les quartiers sensibles, les villes qui évoquent le spectre des meutes et de luttes sociales, considérées comme des terreaux de délinquance et de radicalisation. Mais n'oublie pas aussi d'ajouter que si on remplace Kylian par Pogba à Lagny-sur-Marne, Kanté à Suresnes, Matuidi à Fontenay-sous-Bois, Benjamin Mendy à Longjumeau, on a à peu près toujours la même histoire. Du coup, c'est un parcours assez typique. Et la première question que je voudrais te poser, c'est est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette espèce de lien très étroit entre l'équipe de France, le football français et l'Île-de-France. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui fait que les franciliens sont surreprésentés?
C'est la région capitale, en fait. Ouais. Et c'est là où il y a le plus de talent qui est concentré. J'ai une anecdote là-dessus. J'ai mon neveu, moi je suis originaire de Mayotte par ma mère, et qui jouait pour la sélection de Mayotte en foot. Donc il était venu à Clairefontaine pour jouer contre les sélections d'Île-de-France, de Bretagne, etc. Et il me disait, mais la sélection d'Île-de-France, c'est du n'importe quoi. Il y a trop de niveaux. En fait, les meilleurs joueurs sont là et souvent en banlieue, en fait. C'est là où on retrouve la plus grande concentration. J'ai interviewé Alou Diarra il n'y a pas très longtemps, ouais, dans Banquette. Et je lui posais la question, lui, il vient de Seine-Saint-Denis.
Et il a joué au Girondins de Bordeaux, hein, c'est important de le préciser.
Champion de France avec les Girondins de Bordeaux.
En 2009,
voilà. Et je disais, mais pourquoi dans le 9-3, en Seine-Saint-Denis, il y a autant de niveaux? Il disait que voilà, en fait, c'était c'était un
mode.
C'était limite un mode de vie, en fait. C'est les jeunes après les cours, ils restaient sur les city, ils jouaient, ils jouaient, ils jouaient. Et quand on regarde les joueurs de l'équipe de France qui sont qui ont grandi en région parisienne, ils viennent tous de banlieue, ils viennent pas vraiment de Paris intramuros.
Ouais.
C'est ça le c'est ça qui est impressionnant.
Et du coup, au niveau même européen, les grands clubs viennent faire leur marché de plus en plus tôt. En fait, ils viennent chercher des joueurs de plus en plus tôt en, en région parisienne.
Alors, je vais peut-être paraître un peu étrange, mais il y a quand même Lyon, non ? Avec les, la formation, l'école.
C'est le meilleur centre de formation français, mais ils ne recrutent pas que dans Lyon.
Ils ne recrutent pas que dans Lyon. Enfin, ils privilégient la région lyonnaise, mais à l'échelle des footballeurs français, la plupart des gros talents, enfin des joueurs ciblés, viennent d'Île-de-France. Ouais.
Moi, le sentiment que j'ai en regardant la façon qu'a Kylian Mbappé de s'exprimer, ou même les, l'attitude et les looks des joueurs de France en 2018, j'ai l'impression que ça s'est, on va dire, un peu lissé, qu'ils sont beaucoup plus sobres.
Ça s'agit grave.
Ça s'est très assagi. Est-ce que c'est une façon de prendre de la distance par rapport à la génération post-98? L'exemple le plus marquant dans, dans l'esprit des Français, je pense que c'est par exemple l'époque Anelka, Nice-Na, ce genre d'incident-là.
Il a été lavé, Anelka.
C'est vrai ?
Oui, ils ont dit qu'il n'avait jamais dit
ça. C'est Domenech qui avait dit, je sais plus, c'est à la télé, qui avait dit en fait qu'il n'avait jamais dit ça, la une de l'équipe va te faire enculer, sale fils de pute.
Ouais. Wow.
Il a dit qu'il n'a jamais dit ça en fait.
Non, et il le dit genre.
Il le dit vraiment face caméra, il dit il m'a jamais dit ça, à moi il ne m'a jamais dit ça.
Parce que dans la frange d'une partie de Français, et même du coup dans ma tête, il l'avait vraiment dit.
Dans ma tête aussi, mais Domenech l'a lavé.
Fake news, ok. Nice. Du coup, c'est pas une question nouvelle. SoFoot, en avril 2009, avait fait une couverture avec Henry, Vieira et Mandanda, grimés en blanc, en whiteface, avec en dessous le titre « Et comme ça, c'est mieux ». Au-delà de la couverture, il parle de ce malaise, de l'émergence, parce que c'est une question aussi qui a été très forte dans les années 2000, de l'émergence d'une question noire. Il mentionne par exemple la naissance du Coran, la première loi Taubira sur la mémoire de l'esclavage. Les choses vont très vite dans le football. Donc ça, c'était il y a presque 10 ans. Est-ce que tu as l'impression que cette question de la place des Noirs en équipe de France s'est un petit peu atténuée, s'est calmée ces dernières années ou par rapport à il y a 10 ans, par exemple?
J'ai l'impression que là, on vit un peu une accalmie,
ouais.
Parce qu'il n'y a pas de scandale, en fait. On ne vit pas de scandale vraiment. Mais c'est un truc qui revient à chaque fois qu'il y a un peu une petite crise, en fait. Et là, en plus, on a la chance d'avoir Kylian Mbappé,
ouais.
qui plaît à tout le monde. C'est incroyable. J'écoutais encore la dernière fois dans une émission de foot, il décryptait sa conférence de presse. Il était vraiment admiratif devant sa prestation, en mode « mais ce gamin est génial, il parle super bien, il maîtrise l'exercice ». Donc, avec un joueur comme ça, du coup, on oublie un peu, mais je ne sais pas trop. Franchement, je ne sais pas trop. Je reste un peu sur mes gardes,
ouais.
Parce que j'ai peur que ça revienne à la prochaine débâcle. L'équipe de France, c'est souvent c'est des cycles, en fait. Ouais. Là, on vit un cycle un peu vertueux, ça va, on fait finale de l'Euro, on est souvent en compétition internationale. Mais le jour où ça ira moins bien,
il faudra des boucs émissaires.
Et récemment, la dernière crise, c'était Anelka, c'était des joueurs comme ça. Donc,
on va voir.
Le bus, ouais.
Même Benzema.
Anelka, Evra, Benzema aussi, ouais.
Ouais. Vous avez quoi comme avis, vous, Mélanie, toi, François, qui suit peut-être un peu moins le foot? Est-ce que vous avez des opinions sur la façon dont les joueurs noirs de l'équipe de France sont traités?
J'ai l'impression qu'ils bénéficient un peu d'une sorte de privilèges, de faux privilèges, quoi. C'est-à-dire que le fait qu'ils soient des stars, qu'ils nous fassent gagner, parce qu'on les aime surtout quand ils nous font gagner, quand même. C'est comme tu disais, Abdallah, c'est des cycles. Et le désamour entre des Français envers leur équipe, il est super, super rapide, super volatile. Donc le fait qu'ils soient des stars, ça leur permet de s'émanciper un peu et de devenir blanc, en fait. Zidane, aujourd'hui, c'est pas un Kabyle. C'est pas un Kabyle, c'est pas un Rebeu de Marseille.
C'est
un Français. C'est
Zizou.
C'est même plus qu'un Français. C'est un
dieu.
C'est
un dieu, ouais.
Voilà. c'est très bien qu'on voit des gens comme ça devenir des héros nationaux. Mais je trouve que c'est une perception à double tranchant parce que le problème, c'est qu'ils sont là où on attend qu'ils soient.
C'est ça.
Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on accepte les Noirs.
Et moi, j'attends de voir le jour où un joueur prendra vraiment parti dans des causes. Tu rames l'a fait.
Kaepernick.
Par exemple, c'est ça. En fait, je trouve que dans le foot, En France, en tout cas, les joueurs français sont pas forcément très... Ils ont peur un peu de s'engager là-dedans. Et moi, je me rappelle le Thuram qui s'était vachement engagé. Et c'était Patrice Evra qui lui avait dit « Mais il se prend pour qui, lui, si je ne fais pas d'avoir un chapeau et des lunettes pour être Malcolm X, quoi. » Donc, c'est vrai qu'il y a un peu cette mise à distance avec l'engagement. Donc là, on est content parce qu'ils parlent bien, ils ne font pas de vagues. Mais je ne sais pas si le jour où Mbappé va s'engager pour le droit des Noirs, l'intersectionnalité, un jour, bah, je ne sais pas comment les gens vont réagir. Tu vois. Je sais pas, ah, mais en fait, il est communautaire ou des trucs comme ça, je ne sais pas trop.
Et selon toute vraisemblance, il ne s'engagera pas parce que ce n'est pas bon pour l'image. Il faut pas
voilà, c'est ça. Ouais.
Mélanie, quelque chose à ajouter ?
Ouais, moi, il y a un truc qui me vient quand même, cette histoire d'hymne national. Là. Platini a dit, moi, quand je ne chantais pas parce que je n'avais pas envie de le chanter, personne ne disait rien. Par contre, s'il y a des Noirs ou des Arabes qui ne veulent pas chanter, tout de suite, il y a un soupçon sur eux de, je sais pas, de non-francitude.
Ouais, ouais. Des amours envers la France.
Ouais, ouais, ouais. Qui est vachement mal vu, même par les observateurs qui ouais. sont
moi,
potentiellement neutres.
On l'a beaucoup reproché à Benzema de ne pas chanter la Marseillaise. Et on lui avait ressorti des citations comme quoi il sentait plus algérien que français, ou il avait dit qu'en 98, il supportait le Brésil. Mais en fait, j'ai envie de leur dire que quand t'es enfant... lui était fan de Ronaldo, donc Ronaldo est brésilien et
ouais, mais il faut se justifier.
C'est
en fait,
ça.
Quoi.
Alors que d'autres, moi j'ai fait Johan Rio qui me disait, lui il était pour le Milan AC, il était pour d'autres pays et ça pose de problème à personne en fait.
C'est, on viendra à la France. Question de la loyauté ouais. un petit peu plus tard.
Alors je sais pas si tu voulais en parler, ouais. Kev, mais moi il y a un autre truc qui me choque quand je regarde les matchs internationaux de l'équipe de France. C'est c'est con ce que je vais dire, mais c'est de la palissade, mais c'est à quel point on a beaucoup de joueurs noirs. Je veux dire ça en fait
je
par rapport.
Nadine.
Je dis ça en fait par rapport à d'autres pays ex-puissances coloniales. Je sais pas moi, l'Italie, l'Italie, l'Angleterre, la Belgique, des pays comme ça. C'est dingue comment les. Enfin, j'ai l'impression que l'équipe de France, contrairement à ses spécificités françaises, selon moi, on dirait que c'est une vitrine de l'empire colonial, de l'ex-empire colonial français. Il n'y a que des Fekirs, des Pogba, des joueurs comme ça. Et je trouve que...
Une certaine partie de l'empire. T'as pas beaucoup de Vietnamiens, okay, de gens de Pacifique.
C'est pas exhaustif. Ouais. On a été dans beaucoup d'endroits aussi, il faut dire.
François.
Tu vois ce que je veux dire. Ouais. Je me mets dans la tête d'un, je sais pas moi, d'un Coréen qui regarde l'équipe de France et ça doit lui faire chelou parce que c'est pas du tout l'idée que les gens à l'étranger se font du cliché d'un Français. Il n'y a pas de Jean-Pierre Dubois blanc, il n'y a que des Renois ou des Maghrébins.
Ou des pseudo-Renois comme Antoine Rezouane. Non.
Mais il y en a aussi dans les sélections belges qui a une grosse communauté noire.
Il y a des Balotelli, il y a des joueurs en Italie.
D'origine congolaise. Après, l'équipe d'Angleterre aussi, avec l'apport des communautés jamaïcaines, des Caraïbes aussi, Lingard, Sterling, Dele Alli aussi, il y en a pas mal. Mais c'est vrai qu'en France, il y a quand même un peu plus que la moyenne, j'ai l'impression.
La proportion, c'est ouf.
C'est ça.
Ouais, d'ailleurs, ça a donné lieu à des critiques. Hein.
Un petit peu.
Ouais, ouais.
Où sont les Blancs ?
Ce que je veux dire, déjà, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que cette question sur un étranger qui regarde l'équipe de France, ou même un Français raciste qui regarde l'équipe de France et qui a des choses à redire, il y a un truc qui est très important à dire, c'est que contrairement à beaucoup de sélections européennes, la France ne naturalise quasiment... Il n'y a quasiment pas de joueurs naturalisés en équipe de France. Il n'y a pas ces questions-là. Si on veut commencer à parler de ça, moi, je peux donner des noms. Diego Costa, qui met un doublé pour l'Espagne, il est brésilien.
Ouais.
Et le seul joueur qui, en fait, pourrait y avoir une ambiguïté un peu sur sa nationalité en France, c'est Lucas Hernandez. Mais c'est avec l'Espagne.
C'est ça.
Du coup, on ne l'emmerde pas, quoi.
Ouais.
En fait, ils veulent plus le récupérer... plutôt que dire, ah, mais en fait, il a qu'à jouer pour son pays d'origine et tout. Il n'y a pas ce genre de truc-là. Et pour d'autres sélections, dont tu as cité l'Espagne avec Diego Costa, mais le Portugal le fait beaucoup. On a tué raison des Brésiliens.
L'Italie, des Français
aussi. L'Espagne l'a fait. L'Italie l'a fait avec des Argentins, des Brésiliens.
Dès qu'on trouve une grand-mère, grand-mère italienne, c'est bon.
Il y a beaucoup de pays qui font ça pour justement garnir un peu leur effectif. Et la France ne naturalise pas. C'est des vrais Français, en fait.
Ouais. Si on revient sur le cas de Kylian Mbappé, il y a aussi la touche de l'annonceur de l'équipementier Nike qui s'intéresse à ces questions-là. En 2011, ils avaient fait une publicité que j'avais trouvée assez intéressante. Ils venaient, je pense, de signer un partenariat où ça faisait pas très longtemps qu'ils avaient récupéré l'équipe de France. Et ils avaient fait une publicité assez intéressante avec Oxmo Puccino qui reprend des vers de Cyrano de Bergerac qui évoque le duel.
Élégant comme Céladon, agile comme Scaramouche, je vous préviens, cher Mirbidon, qu'à la fin de l'envoi, je touche. Tac. Je pars la pointe dont vous espériez me faire don. J'ouvre la ligne, je la bouche. Tiens bien ta broche, la ridon. À la fin de l'envoi, je touche.
Et j'avais trouvé ce mélange entre un spot de publicité pour la France où tous les joueurs étaient noirs et un rappeur qui reprend de la culture française assez classique. Moi, j'avais trouvé ça vraiment très classe, sauf que l'équipe de France de l'époque...
C'était pas fameux, quoi.
Tu te souviens de qui il y a dans le clip, dans la pub ou pas?
Non, du tout.
Mamadou Sakho, Florent Malouda et Yann Mvila.
Ah oui.
Ils sont pas bons.
C'est moins ouf qu'aujourd'hui.
Moins ouf, aujourd'hui. Et en plus, Mvila était impliqué dans des affaires un peu. Je crois que c'est l'affaire du taxi, je crois.
Ouais.
Et où était Antoine Griezmann d'ailleurs. Et,
dans tous les bons coups.
Lui, il aura
des... Non, en fait, c'est une affaire où il y avait 5 joueurs
qui
jouaient avec les espoirs.
Ils sont allés en boîte de nuit, je pense.
En boîte de nuit, et le seul rescapé, c'est Antoine Griezmann qui joue maintenant en équipe de France. Mvila, il est plus du tout. Ouais.
Le mec, il surnage tout.
Tout le temps.
Couler Griezmann, merde.
Ce que je viens de dire, ça m'amène sur la question de Nike, ça m'amène un peu sur le terrain du style. Mmh. J'ai posé des questions à une styliste professionnelle et une fan du PSG qui s'appelle Dina.
Oui,
François, je te vole tes potes. et Dina a beaucoup réfléchi sur le style des joueurs et elle établit un rapport un parallèle assez intéressant entre les footballeurs et les rappeurs d'Île-de-France. Selon elle, il y a 3 marqueurs forts qu'on retrouve chez les deux groupes. Le premier, c'est la banlieue et son style particulier, avec l'omniprésence du sportswear, de la sneaker. Ce sont des signes de reconnaissance d'appartenance, Lacoste, Nike, Adidas. Chaque footballeur, chaque rappeur a sa signature. C'est le premier blason qu'il porte. Et c'est très intéressant à observer si tu regardes une émission comme J+1, où il y a des footballeurs qui viennent en civil parler. Et c'est trop marrant de voir d'où ils viennent et les styles qu'ils ont une fois qu'ils ne sont pas en uniforme, qu'ils sont pas en maillot. Elle ajoute par exemple que les joueurs ont une vraie fidélité aux marques. On verra ni Mbappé ni MHD porter du Lacoste. Ils sont plutôt assimilés Nike.
Après, c'est leur équipementier, donc ils n'ont pas vraiment le droit de porter autre chose.
Mais ça joue aussi un peu, je m'imagine, dans le côté fan aussi de ces marques-là.
Oui.
Le deuxième marqueur, selon elle, c'était le fait que la banlieue est collée à Paris et que Paris, c'est la capitale mondiale du luxe et de la mode. Et que malgré eux, ils portent plus ou moins bien un héritage stylistique. Selon Dina, la richesse est directement associée à la mode, contrairement en France, du coup, contrairement à l'Angleterre, où la réussite ou la richesse va plutôt être associée aux voitures. Du coup, des marques comme Vuitton, Givenchy, Balmain, Chanel, etc. deviennent des éléments indispensables de la garde-robe. Donc un peu quand les footballeurs deviennent des blogueuses mode. Et le dernier point... pour elle, qui est spécifique aux joueurs de la région francilienne et aux rappeurs de la région francilienne, c'est qu'ils sont issus de l'immigration et qu'ils ont une double culture. Cette autre culture qui peut plus ou moins valoriser, on va dire, la para, n'est-ce pas ?
La sap.
Qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous pensez que cette vision de ces parallèles entre rappeurs d'Île-de-France et footballeurs d'Île-de-France, où ils se ressemblent vraiment beaucoup dans les codes ?
Je pense qu'il y a un vrai truc. Je pense que ce n'est pas pour rien que Nike, qui est l'équipementier de l'équipe de France, a fait appel à Niska, notamment pour dévoiler les maillots que l'équipe de France porte à la Coupe du Monde, parce qu'il y a vraiment ce parallèle-là entre le foot et le rap, et on le voit même avec le Matuidi Charo, donc le maillot que tu portes, Mélanie. Donc le mec a fait un son sur
Matuidi,
c'est un genre de foot avec une chorégraphie, ça a été repris, et je pense qu'il n'y a jamais eu autant de parallèles entre le foot et le rap. Et c'est Marie Dagchef qui dit en fait, les footballeurs auraient aimé être des rappeurs et vice-versa, quoi.
Et vice-versa.
C'est ça, ouais.
On peut parler un moment du featuring de Benzema sur la Cuenta de Rof.
De la Ligue 1 à la Liga, faut que je perce, transperce les filets du Barça. Sans cesse que je presse, fais-moi la passe là. Je soulèverai la coupe, check ça. Ce soir, on fait ça.
Ça, c'était foireux.
D'accord,
quand même.
On en parle.
Ça reste au grenier.
C'était très foireux.
Il y a une chose que je veux aborder, c'est la question de la loyauté. J'ai pas envie de débattre des caractéristiques physiques des Noirs en général.
Tu veux pas faire comme Willy Sagnol ou Laurent Blanc?
J'allais te dire, il y a plein de racistes qui le font déjà pour nous, mais t'as donné des noms.
C'est quoi ça, Laurent Blanc?
Ah bah Laurent Blanc, c'était quand? C'était en 2011, donc il était sélectionneur de l'équipe de France. Et ils étaient dans une réunion avec le directeur technique national, donc celui qui chapeaute un peu toutes les équipes de France, le jeu qu'il doit avoir dans toutes les équipes de France. Il a été dit lors de cette réunion... Je crois que c'est Laurent Blanc qui dit « En France, on a l'impression qu'on forme le même prototype de joueur. Grand, costaud, puissant, grand, costaud, puissant. Qu'est-ce qu'il y a actuellement comme grand, costaud et puissant ? Les Blacks. C'est comme ça. » Bon, déjà, il dit « Les Blacks ». Donc, ça avait fait un scandale. On l'avait appelé ça le « Quota Gate ». En fait, il voulait instaurer des quotas pour pas qu'il y ait trop de binationaux.
Ah, ouais, je me souviens, ouais.
Et Willy Sagnol qui avait dit, en gros, je résume, que le joueur africain, il est physique et puissant. mais que c'était bien aussi d'avoir des Nordiques qui sont un peu plus intelligents, qui comprennent mieux le jeu, voilà.
C'est de ça dont je parlais. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que, à mon avis, une grande partie de l'expérience noire en France, c'est une expérience de binationalité. La fameuse identité afro-péenne, j'ai réussi à le caser.
Grandir en France. Les féministes de Twitter sont contentes.
C'est ça. Grandir en France, c'est souvent, pour un noir, c'est souvent avoir une famille d'une autre nationalité, d'une autre culture. Et à la base, je voulais poser la question suivante. Est-ce qu'on peut être noir et décemment, confortablement supporter l'équipe de France? Et au début, je trouvais que c'était un peu trop gros comme question. Mais il y a ce film qui s'appelle Entre les murs. Je ne sais pas si vous l'avez vu.
Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu. Ouais. Dans une classe.
Le film, c'est un film de Laurent Cantet et de François Bégodeau qui date de 2008. L'histoire du film est assez classique. On suit un prof blanc qui passe une année dans un collège réputé difficile dans le 20e arrondissement. Et on y voit souvent des élèves de sa classe se chambrer sur leurs origines. Et il y a un moment clé, vraiment hyper, hyper intéressant. Un moment clé du film où ça se passe pendant la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. On sait tous que la Coupe d'Afrique des Nations dans certaines villes françaises, c'est la folie, n'est-ce pas?
Moi, je suis venu, en fait, c'est pour répondre à Nassim. Il a dit, comme le Mali, ils ne sont pas qualifiés pour la CAN, il n'y a plus d'Africains, noirs pour supporter. Mais il ne faut pas oublier un pays, il y a la Côte d'Ivoire aussi. Avec un joueur symbolique, Didier Drogba. Ah ouais, Didier Drogba, il est plus fort que tous les Marocains. Toi-même, tu sais.
Ouais, vas-y, là.
Didier Drogba, il joue à Chelsea. Quel Marocain joue en Angleterre? Quel Marocain joue en Angleterre? Ils jouent tous en Ligue 1, ils veulent parler. Moi, j'ai fini.
Et du coup, chaque élève soutient le pays de son origine, sauf Karl. Karl, lui, il est antillais et soutient l'équipe de France.
En fait, moi, je voudrais dire que, voilà, ils n'arrêtent pas de nous saouler avec leur Coupe d'Afrique, là. On en a déjà marre. Déjà, à la récréation, vous êtes là, vous êtes en train de saouler les gens avec votre Coupe d'Afrique. Elle n'a même pas encore commencé.
Là, je vais être très poli avec toi.
Vas-y,
excuse-moi de t'interrompre. T'as vu? Tu peux me dire, c'est quoi votre équipe nationale?
La France.
Et il exprime son ras-le-bol au tableau et là ça part en sucette. En gros, il y a un élève qui s'appelle Souleymane et qui le prend violemment à partie.
Mais pourquoi vous dites pas on est des Français au lieu de dire qu'on est des Antillais?
Et alors, c'est la même chose?
Non, je pense pas.
Regarde non, les joueurs qu'on a. Il y a Thierry Henry, il y a Wittor, il y a Bidal, il y a Thuram, on veut.
Et t'as oublié Diarra. Il joue où Diarra?
Eh, Diarra, déjà mon frère, il va jamais aller au Mali, il est passé.
Déjà, ferme ta gueule, déjà mon gars, je te dis casse. Je suis pas ton frère, mon gars, mais t'es ouf, ton frère a un Mouaka Comas, mais regarde, t'as le vendu.
Ça va aller.
Et qui l'insulte, qui lui dit que voilà, c'est un vendu, qu'il a pas à soutenir l'équipe de France. Et d'ailleurs, le personnage Souleymane finit par se faire exclure. Moi, j'ai trouvé ça malin dans le film d'emmener cette question des identités qui s'affrontent sur le terrain du football, parce que justement, c'est un des domaines où les drapeaux s'agitent le plus. Et du coup, le football met également les supporters dans des sortes de conflits de loyauté. Qui supporter? Est-ce que vous avez un avis sur la question? Le fait de, voilà, d'être français, d'avoir des origines ailleurs et de se retrouver à se dire est-ce que je dois supporter l'équipe de France? Est-ce que je soutiens le pays de mes parents? Est-ce que vous avez un avis sur ça?
Je pense qu'en fait, il n'y a pas vraiment à choisir.
Ouais.
Je pense qu'on est aussi bien français et on n'a pas à rogner les origines qu'on a. Moi, donc, j'ai dit je suis de Mayotte, mais je suis aussi d'origine comorienne.
Ouais.
C'est une histoire géopolitique un peu compliquée.
Ouais. Parce que Mayotte, c'est les Comores, mais c'est la France.
Exactement, voilà. C'est ça, c'est très bien résumé. Et bon, l'équipe des Comores, on n'est pas très forte en foot, donc j'ai pas eu l'occasion de me réjouir en Coupe d'Afrique des Nations. Mais moi, je me rappelle quand j'étais au collège, et l'exemple du film est vraiment parlant parce que c'est vrai. À chaque CAN, en fait, les gens s'écharpaient parce que le Maroc jouait contre le Sénégal ou la Tunisie jouait contre la Côte d'Ivoire ou la République démocratique du Congo. Et les gens étaient vraiment à fond. Mais en fait, quand c'était l'Euro ou la Coupe du Monde, on vibrait tous pour la France. Et à titre personnel, j'estime que je n'ai pas à choisir entre la France et mon pays d'origine. J'aime les deux et donc je supporte les deux quand l'occasion se présente. Ouais.
J'ai appelé mon père. Parce que dans nos réponses, il y a quelque chose de générationnel. Nous, on a grandi avec France 98, avec une équipe de France qui a gagné, une équipe de France qui a gagné en étant assez diverse, même si on a tous nos retenues avec ce mot-là. Mais j'ai appelé mon père hier, c'était la fête des pères, donc j'ai appelé Fred. Et je lui ai posé la question de lui, dans sa jeunesse, qui est-ce qu'il supportait? Dans ses années de militantisme, il m'a dit qu'il soutenait que les équipes des pays décolonisés. le Brésil, le Zaïre en 1974.
Le Brésil est décolonisé, ah bon?
Le Zaïre en 1974, première équipe subsaharienne à se qualifier pour une Coupe du Monde. L'Algérie, il m'a même dit qu'il soutenait les pays du bloc communiste, URSS ou Yougoslavie, avant de supporter l'équipe
il
de France.
Ils supportent Haïti, à l'époque, ou pas ?
Je ne sais pas s'ils ont, si, ont participé à des Coupes du Monde.
74, en 74.
74 aussi, ouais. Haïti.
Ah, néfaste.
Et je lui ai demandé pourquoi, il m'a dit que c'est... en dehors de plein de trucs symboliques de l'État français colonialiste, il me disait que c'est juste les injustices envers les joueurs antillais. Parce que lui, il n'est pas du tout de la même génération. Et c'est vrai qu'avant Marius Trésor, c'était très, très compliqué pour les joueurs martiniquais ou guadeloupéens de participer en équipe de France. Donc du coup, dans des équipes comme le Brésil ou le Zaïre, ils se reconnaissaient plus qu'en équipe de France, qui aujourd'hui, justement, comme disait François, est une équipe quand même où il y a beaucoup de noirs.
non, mais je trouve cet étalage un peu obscène, finalement. Tu vois,
étalage de quoi?
Quand je parlais de vitrine coloniale, je trouve du coup ça fait un peu
une exposition universelle.
Ouais, c'est chou. Abdallah, il y a des joueurs maorais notables en France?
Il y en a eu un qui a pris sa retraite là il y a pas très longtemps, toi Philo Maolida.
Ah bien sûr.
C'était un peu le porte-drapeau de Mayotte, qui a joué notamment à l'OM, mon club de cœur, et qui était pas très mauvais en plus quand il était là-bas, mais c'était pas un très très grand attaquant, mais il a fait une carrière honorable dans les clubs de Ligue 1, de Ligue 2, mais non, à Mayotte, on n'a pas eu de très grands joueurs. On n'est pas un très grand pourvoyeur de joueurs en équipe de France, ouais. Dans le championnat tout court même.
J'en arrive à la conclusion. Vous l'aurez compris, je suis un fan de foot. Et du coup, le Martiniquais en moi, un peu conscient, mais en même temps parisien d'adoption, t'as vu, se retrouve dans des situations un peu délicates. Je me refais souvent en fait la scène du film... entre les murs où il y a les deux gamins qui s'engueulent, mais en fait je suis à la fois les deux gamins, je suis un peu pris, une partie de moi est complètement révoltée par le traitement qu'on réserve aux joueurs issus des anciennes colonies, pour qui j'ai autant d'estime que pour des artistes par exemple. Et encore, on n'a même pas parlé de l'affaire Benzema quand je dis que j'ai de la colère pour la façon dont on traite les joueurs racisés. Je pense tout simplement que c'est l'affaire Dreyfus des années 2000, où je l'ai dit, donc allez voir le cas Benzema. Et une autre partie de moi est complètement footix. Et va conclure en disant « Allez la France, pour une deuxième étoile, on oublie tout. Presque tout. »
C'est voilà. Beau.
On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion.
C'est tout pour moi.
C'est l'heure du TBT, hashtag TBT. Mélanie, on va parler de 98, donc.
Ouais, donc Marty McFly, c'est moi. Je vous propose d'effectuer un petit retour sur l'année 1998. Qui étions-nous à l'époque? Qu'est-ce qui se passait dans la pop culture et dans la black culture? En gros, c'est un peu les questions qu'on va se poser. Donc, en la France, 1998, vous avez quel âge à l'époque, Kevin?
J'avais exactement le même âge que toi, Mélanie. J'avais 14 ans.
Ouais.
J'avais 14 ans en 98.
Et, ouais. Et toi, François?
J'avais 10 ans.
Mmh. Ah, je suis le plus jeune, là. Là, j'avais 8 ans.
Oh, comme c'est mignon. Donc, ouais, on était quand même jeunes, relativement tous. Hein.
Enfin, nous deux, oui. Pas ouais. Vous deux.
Oh, oh, des... oh.
À 14 ans, j'étais déjà un vieux.
Vous étiez des anciens, ouais.
Et ça allait dans vos vies? Vous aviez des amis ou comment ça se passait?
Ouais, ça allait. Je n'étais pas non plus au top de la popularité, mais comme je te disais tout à l'heure, je me suis rappelé que c'est la première fois que je passe à la télévision.
C'était à quelle occasion, d'ailleurs?
C'était pour l'esclavage. C'était les 150 ans de la commémoration de l'esclavage.
Déjà 14 piges.
On m'a dit « Kevin, va !» Et je suis passé, pour les Martiniquais, je suis passé à l'émission qui s'appelle « Bien glacé ». Et voilà, mon collège présentait une kermesse, une sorte de spectacle de fin d'année sur le thème de l'esclavage, pour qu'on puisse avoir des fonds, pour ensuite faire un voyage. On allait à Cuba l'année d'après, c'était cool.
Et du coup, la Coupe du Monde, vous étiez où? Vous habitiez où? Et c'était qui votre team de prédilection pendant la Coupe du Monde?
Alors moi, j'étais... Quand la Coupe du Monde a commencé, j'étais encore en métropole. Mmh. Et en fait, cet été-là, on est descendu à Mayotte avec ma sœur. Et donc, moi, je n'ai pas trop de souvenirs de tous les matchs. En fait, je me rappelle du match d'ouverture, de la demi-finale et de la finale. Quand on a gagné, on a pris...
Ouais, c'était tout le monde était pro-France,
Pro-France, ouais. On a pris la voiture de mon beau-frère. On est parti à la capitale. On avait laissé le fils de ma sœur qui dormait à la maison tout
allez,
seul.
Allez, salut.
Et on a klaxonné. On était on était hyper heureux. Donc, ouais, moi, si j'étais à Mayotte...
On dit souvent que les Mahorais, ce sont les plus français des Comoriens, parce que si j'ai bien compris, lorsque les Comores ont proposé de reprendre Mayotte à la France et qu'il y a eu un référendum auprès des Mahorais, on a demandé aux Mahorais, vous voulez rester français ou vous voulez retourner
Bah ouais, en fait, c'est ça. C'est déjà à la base, au moment de l'indépendance, Il y a eu le vote d'autodétermination.
Ouais.
Et ce qu'a fait la France, c'est qu'au lieu de faire un vote global, ils l'ont fait par île. Donc, il y a 4 îles dans l'archipel. Et les 3 îles, il y a 3 îles qui ont décidé d'être indépendantes. Et Mayotte a voté à 97-98% de rester française. Et donc, c'est comme ça qu'on en est arrivé à cette situation-là. Et après, il y a eu un autre référendum pour la départementalisation. Il n'y a pas très longtemps, il y a moins de 10 ans, je crois, peut-être 2011, je ne sais plus.
2011.
Et ils ont voté dans les mêmes proportions pour être le 101e département français. Donc, il y a un vrai amour de la France.
Et en 98, du coup...
En 98, c'était incroyable. On était là avec les drapeaux, on mettait de la peinture sur le visage et tout. C'était le feu.
Et toi, François ?
Je me souviens également de la demi-finale contre la Croatie, avec l'injustice contre Laurent Blanc, etc. Ça, je m'en souviens très clairement. Et lors de la finale, j'ai été chez mes parents, dans le 10e arrondissement de Paris. On avait également un cousin de Martinique qui était avec nous. On avait commandé des pizzas. Et je me souviens juste des 3 buts où à chaque but, je courais dans ma chambre et je venais hurler dans mon oreiller pour...
C'est bon, c'est trop mignon.
Ouais, voilà. Mais sinon, à part ça, j'étais pas un footix déjà à l'époque.
Et toi, Kev?
En Martinique.
En Martinique.
Et ouais, je supportais l'équipe de France. Mais en Martinique, il y a aussi un vrai amour pour le Brésil.
C'est une ambiance marrante, d'ailleurs, que du coup, je vais connaître cet été. Puisque du coup, aux Antilles, on mate les matchs
l'après-midi. Ouais, moi, ça, c'est vraiment super différent d'être sur un fuseau horaire différent. C'est-à-dire que les matchs importants, il y a des matchs de Ligue des Champions le mardi après-midi. Quand tu habites en Martinique, bah, les cours, bah, du coup, ils sautent. Quoi, vraiment, tu vois, t'as un gros truc et tout. Donc, ouais.
Quelques décalages horaires. Et je me suis toujours demandé comment ça se passait là-bas en termes d'ambiance pour les passionnés de foot. Comment ils font
Je veux pas donner de nom, mais je connais un monsieur qui, pendant des années, organisait des réunions le mardi après-midi avec ses collègues. pour pouvoir dire on est entre nous et puis en fait on regarde ce qui se passe sur Canal Plus justement le mardi après-midi.
Je me souviens avoir maté l'Euro 2000, la finale de l'Euro 2000 l'après-midi comme ça en Martinique.
Ouais, bah, moi je l'ai vu là-bas. Ouais.
Bah, moi, puisque vous m'avez demandé, j'étais au camping avec mes parents et j'étais sapée aux couleurs du Brésil parce que le mec qui me plaisait était fan du Brésil et de Ronaldo.
bravo Mélanie, bravo.
Donc voilà. Du coup, alors pour 98, mais plutôt côté pop culture cette fois. 90, c'était quand même un grand cru. On s'en rend pas vraiment compte comme ça, mais en cherchant, on s'aperçoit que c'est l'année qui a sorti. The Boy Is Man de Brandy et Monica, quand même un tube légendaire.
Pas mal.
When You Believe de Whitney et Maria. Dans la bande-annonce du Prince d'Égypte, il me semble.
Tout à fait. Uh-huh.
Hard Knock Life de Jay-Z. Et mon préféré personnellement, Ghetto Superstar de Pras. Et il y en a une autre que j'aime bien aussi qui s'appelait This Is How We Party de Soap. Bon, ça c'est un peu vraiment vraiment du grenier, mais il y avait une chanteuse noire dans le truc. Donc,
d'accord,
donc
Mélanie.
Ça tient,
donc
ça tient,
donc ça marche,
ça tient,
ça marche,
ça passe. Marche. Et vous?
Moi, musicalement, avec recul, The Miseducation of Lauryn Hill.
Mais c'est un album, ça.
C'est un album.
Mais ouais, ok.
C'est un album, mais si tu me demandes, je te dirais du coup, Doop, Dating.
C'est 98, Lauryn?
Ouais, c'est 98.
Yep, elle avait 23 ans, la meuf. Putain. Et elle te sort cet album.
Je suis obligé de sortir la même chose, ouais. Miseducation, même sans recul, déjà à l'époque, je saignais l'album. Je me souviens encore de cet album qu'on avait prêté à ma cousine en Guadeloupe, qu'il a embarqué, on était trop vénères, après on l'a récupéré, tout ça.
Moi, je l'ai rayé. Pour moi, le morceau Zion, il déconne.
Non, mais c'est vrai, Doo-Wop, moi j'écoutais pas vraiment d'album à l'époque, j'étais un peu trop jeune.
T'étais déjà sur Spotify?
Il était dans le mode des playlists à la Drake.
C'était un monde que je connaissais pas
les
du
CD
tout, les albums.
Titres,
c'est ça, les CD de titres. C'est vrai que quand j'ai la mode, on regardait beaucoup la télé et mes cousines écoutaient les clips, écoutaient beaucoup de musique et c'est vrai qu'ils passaient en boucle. Et moi je l'ai vraiment écouté plus tard et c'est un des albums, un de mes albums préférés dans le top 5 facile, ouais. All time.
Niveau cinéma aussi, il y a eu des trucs en France. Hein. On a eu Titanic un peu en décalé, qui est sorti en 98, Marie à tout prix, Mulan, The Big Lebowski, mais pour moi, le plus important, c'était quand même la sortie de Kirikou et la sorcière, parce qu'il y avait l'iconique Karaba dedans. Donc c'est un peu une bad bitch, quoi.
C'est si vieux que ça, ça a 20
super
ans,
sapé. Ça a 20 ans, Kirikou.
C'est 20 ans. Tremblez de joie, elle approche, elle est là. Tremblez de joie, tremblez de foi, car voici Karaba.
J'avais un camarade en primaire qui m'appelait Kirikou et qui me chantait la chanson.
Mais non.
Je crois que c'était un noir, mais en fait c'est un blanc.
Mais
malaise.
Du coup j'ai cherché et il y a un film de 98 que j'ai beaucoup aimé, mais je sais pas si je l'ai vu en 1998 ou en 99. C'est American History X, qui est un film qui m'avait un peu traumatisé, mais qui m'avait vraiment vraiment bien marqué. Et justement, c'est une question de racisme aux États-Unis, de néo-nazis, de rédemption, de chute. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, enfin à cette époque-là, ouais, je me disais qu'Edward Norton.
Passage
c'était
à la
acteur.
Télé sur l'esclavage et puis boum, American History.
Ah pas direct, je me suis radicalisé. Je fais que des trucs de Renoir.
Juste pour rebondir sur Titanic, parce que mon père, je ne sais pas ce qu'il a avec ce film, il est vraiment fan de Titanic.
Wow.
Je me rappelle, il ne va pas au cinéma, c'est un mec qui ne va pas au cinéma, mais quand il est sorti, à l'époque c'était en VHS, il avait acheté un coffret et tout, et à chaque fois qu'il passait à la télé, il enregistre le film.
Oh.
Je ne sais pas pourquoi, mais
alors qu'il l'a déjà en cassette.
Ouais, on n'a plus la cassette, il l'avait je crois acheté en DVD, il l'a enregistré, il adore ce film, c'est incroyable. Dès qu'il passe à la télé, il le regarde.
C'est un grand romantique.
Ouais, ça doit être ça. Moi, il y a un acteur que j'aimais beaucoup à l'époque, c'était Eddie Murphy. Yes. Il y avait ce film avec où il se prenait pour, enfin, il était un docteur, un vétérinaire qui avait le
docteur Doolittle.
Exactement, qui avait docteur le pouvoir de parler aux animaux.
Bien sûr.
Et je trouvais ça charmé. On l'avait vu avec ma sœur, on avait trop kiffé. Après, la suite était moins bien, mais enfin, juste parce que j'étais petit, j'adorais Eddie Murphy. Et voilà.
Déjà bon goût.
C'est ça.
Il y a un des meilleurs stand-up d'Eddie Murphy là, qui est sur Netflix en ce moment.
Oui,
ouais.
Delirious.
Ouais, les deux, ils sont sur ma watchlist, vous les avez vus ou pas?
Non, bah non. Pareil, je les ai mis dans ma liste à regarder. Ouais.
Je les ai vus, il n'y avait même pas encore Netflix.
Je fais l'ancien là.
Bragging.
Le OG.
Alors juste, je voulais rappeler, en 98, hein, on connaît tous le slogan. La France black, blanc, beurre.
Ah, j'avais oublié.
Donc, le 12 juillet 98, toute l'île de France descend sur les Champs-Élysées pour fêter la victoire. Le racisme est aboli en France.
Nice.
Tout le monde est content et on se met à appeler les Noirs les Blacks. Donc, 3 ans après, quand même, c'est le 11 septembre. Donc, ce sera la fin de la parenthèse enchantée à ce moment-là.
Il y a aussi France-Algérie, 3 ans après.
Voilà. Et avec le recul, on peut se demander, est-ce que ça a vraiment existé, cette France black, blanc, beurre, une France métissée, idéalisée? Est-ce qu'on l'a vu dans les médias, dans la culture, dans la politique, ça existait vraiment ou c'est une vue de l'esprit? Et surtout aussi, qu'est-ce qu'il en reste 20 ans après?
Je ne sais pas si dans la société ça existait vraiment, en tout cas même dans les arcanes du pouvoir, ce n'était pas vraiment le cas du tout. Je ne sais pas trop, j'avoue que ce slogan, je ne sais jamais trop quoi en penser. J'ai plus l'impression que c'était un peu une façade pour dire, voilà, regardez cette équipe merveilleuse. Et j'en parle souvent avec des gens, des journalistes, des acteurs de cet événement. Et ce qui ressort, c'est en fait, on a imposé cette équipe d'être un peu le relais sociétal d'une
minorité modèle.
C'est ça. Alors que ce n'était pas du tout leur rôle, en fait. Leur rôle, c'est juste de jouer au foot et ça s'arrête là.
Le black blanc beurre, en fait, a été tellement matraqué et sorti comme exemple d'une France qui gagne, parce que je crois que c'était un moment en fait où la France allait pas si mal, la fin des années 90, il y avait un peu de croissance économique, le chômage qui baisse, on gagnait enfin la Coupe du Monde avec une équipe qui, à travers les origines des joueurs, raconte plein de trucs sur la France. Il y a un Kanak, il y a un Arménien, il y a des Basques, il y a des Antillais, des Guyanais, enfin, il y a vraiment un peu de tout, de l'Algérie. Donc, c'était un peu facile d'y coller plein de symboles assez naïfs. Et en plus, après, quand l'équipe a été moins bonne et qu'en plus, elle s'est noircie, ça a été encore plus facile de prendre ses ans, de faire « Non, mais avant, black, blanc, beurre, c'était bien, mais black, c'est trop. »
Mais il y a vraiment des gens qui ont dit ça, c'était une équipe black, quoi.
Oui.
Ouais.
Ah, c'est un vrai truc, là.
Bah, ouais, c'est un présentateur de France Culture.
Ok, d'accord.
Il s'appelle Alain Finkielkraut.
Bam, c'est... Ah, on l'a tombé.
J'aime bien le « Ok, d'accord », en même temps, on sent que t'écris le nom dans ton petit carnet. « Ok, d'accord ».
C'est un Death Note.
Mélanie, continue.
Bon, je vais pas dire qu'on va gagner la Coupe du Monde parce que je vais porter Ashkoumoun, mais je trouve que c'est intéressant de voir comment ça a évolué et surtout de voir aussi qu'on n'est plus dans ce truc, dans ce slogan magique qui résolvait tout, quoi.
Ouais.
Le football aussi, c'est aussi de la chance et du vice. Donc c'est pas juste en étant les gentils bisounours qu'on gagne une Coupe du Monde non plus, je pense.
On n'a pas eu tout le temps d'en parler, mais je me suis beaucoup marié en 2002 lorsqu'on était sur le toit du monde, qu'on s'est vautré comme des grosses merdes
et
que tous les mecs se sont pris d'affection pour les Sénégalais à ce moment-là. Et genre, oh là là, ils sont beaux, ils ont le feu dans les pieds, le soleil dans le cœur. Et
mais moi, je me rappelle d'un moment à cette Coupe du Monde, donc le Sénégal fait un beau parcours. Et je me rappelle avoir entendu l'équipe de France bis, j'entends ça, et moi, ça me choque. Je sais, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas l'équipe de France bis, c'est le Sénégal. Pourquoi il dit ça? Parce que bon, il y a beaucoup de joueurs qui jouaient dans le championnat de France. Ok, il n'y a pas de problème, mais non, c'est pas ça.
C'est abusé.
Moi, ça m'avait en tout cas choqué à l'époque. Ouais,
vu que le Sénégal, c'était à nous, s'il gagne, c'est un peu nous qui gagnons.
Ouais, c'est ça. Il y a un peu ce côté-là, les Roland de France-Afrique.
De ouf.
Dans le sport, il y en a beaucoup. Dans le sport, il y en a beaucoup.
Énormément. Alors, pour les recommandations, moi, je voudrais vous recommander un compte Instagram qui s'appelle Ain't No Jigga. Et comme son nom l'indique, c'est un compte Instagram qui est uniquement consacré à Jay-Z.
C'est vrai ?
Ouais, c'est un compte consacré à Jay-Z. C'est pas un... Si je vais le décrire, c'est pas juste une fanpage de quelqu'un qui adore Jay-Z, qui va reposter des photos. Ça ressemble plus à un blog d'histoire du rap. Parce que Jay-Z, c'est tout un pan de l'histoire du hip-hop américain.
Deux décennies, ouais.
C'est super intéressant à lire et à suivre. Alors, c'est une page qui mélange des photos récentes, beaucoup de photos de coulisses, des photos de behind the scenes, vous savez, de tournage, de clips, des choses comme ça. Mais également énormément de photos anciennes, des photos de son enfance, des photos de son adolescence, des photos de shooting photos également. Et toutes les photos, en fait, sont datées et très, très soigneusement légendées. C'est-à-dire que tu as le moment où a été prise la photo, des anecdotes qui entourent la photo et l'endroit où Jay-Z était et la place qu'il occupait dans sa vie à ce moment-là. Et donc on apprend plein de choses sur ses cercles d'amis, ses amis d'enfance, ses amis dans le rap, ses amis en dehors du rap également, parce que Jay-Z connaît beaucoup de monde. Et il y a énormément d'anecdotes super intéressantes, son amitié avec Notorious B.I.G., avec Alias, sa rencontre avec Beyoncé. J'ai appris des tas de trucs que je connaissais pas. Par exemple, est-ce que vous saviez que Jay-Z, il a des cheveux qui passent en album mode?
C'est vrai qu'il se laisse pousser les cheveux à certains moments.
En fait, Jay-Z a généralement toujours une coupe de cheveux très courte, un peu comme la tienne, Kevin. Et en fait, quand il se laisse pousser les cheveux, c'est qu'il est en train d'enregistrer un album. Et lui-même l'a dit en interview, et donc il est cité sur la page Instagram. Et donc les fans de Jay-Z, dès qu'ils voient ses cheveux un peu poussés, disent « He's in album mode, il va sortir un album ». Et dans le clip de Ape Shit, il a les cheveux très longs. Je vous donne juste une petite anecdote. En 2003, il doit organiser à New York, à Rutgers Park, un match de basket contre Fat Joe. Fat Joe et le Terror Squad. Donc en fait, le deal, c'est que les deux rappeurs doivent assembler une équipe en faisant appel à des joueurs de leur réseau. Ouais.
Fat Joe, il joue au basket ?
Non, il joue pas. Les deux rappeurs devaient assembler une équipe de joueurs pro. Enfin, de joueurs pro ou semi-pro, ou qui ils voulaient en fait.
Okay.
C'est comme dans The Wire, dans la saison 1.
Exactement, la saison 2. La saison 3,
Non, dans la saison 1, avec Prop Joe et
Evan. N'essaye pas de prendre Abdallah sur The Wire.
C'est la saison 3, je te... Pareil, ce que tu veux.
Saison 1, épisode 8.
J'irai vérifier après l'émission. Bref, ils doivent organiser ce match de foot, de basket. Chacun assemble son équipe. Évidemment, il y a beaucoup de stars de la NBA. L'équipe de Jay-Z est composée de joueurs stars tels que Shaquille O'Neal, qui en fait était gardé comme arme secrète. Il était dans un hôtel pas loin de Rucker Park. Il attendait l'appel de Jay-Z pour rentrer sur le court en mode surprise.
Magnifique.
Incroyable.
Donc des joueurs stars de la NBA, évidemment, grâce au gros réseau de Jay-Z, et des joueurs un peu plus jeunes, mais prometteurs. LeBron James.
Ok. En 2003, du coup ?
2003.
Avec la 19 ans, il a 19 ans.
Jay-Z a découvert LeBron James très très tôt. Ils sont amis depuis plus de 15 ans.
Ah, mais ça vient de là alors.
Parce qu'il joue dans un clip. Il joue au basket contre LeBron James dans un clip. Dans DOA.
Exactement. Et donc, ce qui se passe en fait, c'est que ça devait être un événement totalement historique à la fois de l'histoire du basket et du streetball. Avec plein de stars, plein de gens, plein de VIP, de rappeurs, etc. Vous imaginez le truc. Sauf qu'il y a eu une coupure d'électricité géante qui a mis dans le noir environ 55 000 foyers à New York, et du coup le match a dû être annulé et reporté à une date ultérieure. Problème, Jay-Z n'a pas pu organiser le match ni être présent. Le match a été annulé définitivement parce que la date qui avait été choisie pour le report, c'était celle sur laquelle il avait booké un jet privé pour l'Europe pour ses toutes premières vacances avec Beyoncé. Et donc du coup il a préféré mettre sa relation naissante avec Beyoncé devant le match de basket qu'il avait pris des mois à organiser.
C'est pour toutes les meufs qui se disent, alors est-ce que du coup je suis patiente, est-ce que je laisse tu vois, regarder un match de foot ou de basket
ouais, mais en gros Voilà, allez sur la page Ain't No Jigga, c'est super détaillé, super sourcé, c'est super intéressant, je vous le conseille vraiment. Que vous soyez fan de Jay-Z ou juste fan de rap, c'est super intéressant.
Moi, en recommandation, j'en ai deux. Mais avant de faire mes recommandations, je vais commencer par un mea culpa.
Qu'est-ce que tu as encore fait ?
Je me suis trompé il y a 2 semaines. En fait, j'ai annoncé un concert de Tyler, The Creator.
J'ai vu quelqu'un qui t'a engueulé sur Twitter.
Mais je me suis fait engueuler de pas, droite et à gauche. En fait, en gros, l'application Songkick, qui est une application qui recense des concerts d'artistes que vous aimez, m'envoie une notification « Concert de Tyler, The Creator au Baiser Salé ». Donc du coup, je passe en mode « Shut up and take my money », je prends 2 places, je pose pas de questions et j'annonce. Et en fait, ce sera juste une jam session. Mais j'y serai le 22 juillet, ce sera cool quand même, pas de soucis. Sinon, il y a Prince, je crois, qui passe à la Fnac des Halles en showcase le 14 juillet. Si ça vous dit, c'est pas mal.
Michael Jackson en première partie.
C'est ça, c'est ça. Et puis, non, voilà. Donc pour ça, pardon, désolé, mea culpa, la fatigue, ça ne se reproduira plus. Voilà, d'un autre côté, j'ai pas la carte de presse. Et puis, mes 2 vraies recommandations, c'est tout d'abord, évidemment, Banquette. Quelques épisodes en particulier sur le Franken Player. Je voudrais revenir sur un épisode sur les milieux de terrain. Où il y a un podcasteur qui s'appelle David.
Excuse-moi, c'est quoi Franken Player ?
Tu peux développer ?
En fait, c'est tout vient d'un livre de Cicerano sur le basket. Il s'est amusé à faire un chapitre où il composait son joueur de basket idéal selon plusieurs caractéristiques. Et pour chaque caractéristique, il fallait prendre un seul joueur. Donc par exemple, lui, il est parti dans les trucs beaucoup plus loufoques que nous. Il a dit, je prends le front de Paul George, l'envergure des bras de tel joueur, les yeux d'un autre, le dribble de quelqu'un d'autre. Et nous, on s'est amusé, on s'est inspiré de ce livre pour faire... la même chose pour les joueurs de foot, mais poste par poste.
Ah, c'est génial.
Ouais.
Et donc, dans la catégorie milieu de terrain, il y avait un certain David H. On lui a demandé quel était le nom idéal du milieu de terrain. Il a répondu N'Golito Kantegas. En disant qu'en gros, les joueurs d'origine africaine étaient toujours sous-cotés et que les joueurs, tu vois, latinos, brésiliens, portugais, etc., ils avaient une plus grosse cote. Est-ce que tu penses que c'est vrai ?
Mais même des fois, dans un même continent, genre les Sud-Américains, je ne sais pas si un Péruvien est très très fort, ils vont dire bah, s'il avait été brésilien ou argentin, il jouerait dans les plus grands clubs.
Ouais.
Et ça, c'est vrai que Zidane l'avait dit pour Paul Scholes,
ouais.
Et je crois qu'on en parle d'ailleurs dans ce podcast-là. Zidane, qui est un grand fan de Paul Scholes, avait dit s'il avait été, s'il avait eu la tête de David Beckham, par exemple, bah, il aurait été Ballon d'Or.
Ouais.
Donc oui, ça joue aussi, je pense. Ouais.
Donc N'Golito est validé.
N'Golito est complètement validé. Donc ouais, alors allez écouter Franken Player. Il y a combien de... Il y en a 4, c'est ça ? 4 épisodes, celui avec les entraîneurs.
C'est ça, on a fait 4 sur les joueurs, donc défenseurs, milieu de terrain, attaquant et les numéros 10,
ouais.
Qui est un poste à part. Et après, on a fait un truc sur les entraîneurs. Ouais.
Ok, bah, c'était vraiment, vraiment, vraiment un plaisir d'écouter
ça. C'est
un
bête de
concept. Ouais, merci.
C'est vraiment cool. Et si par contre, vous en avez marre du foot, avec la Coupe du Monde, les podcasts sur le foot à gauche et à droite, vous pouvez aussi écouter... et vous renseigner sur de la poésie. Je vous recommande un article en anglais du New Yorker sur un intellectuel noir américain qui s'appelle Alain Locke et qui a passé pas mal de temps à Paris, qui a aussi à l'origine d'un courant artistique passionnant qui vient de New York qui s'appelle Harlem Renaissance. Donc du coup, cet article du New Yorker se plonge un peu sur la face cachée d'Alain Locke, notamment d'une relation homosexuelle qu'il aurait eu avec un poète américain qui vivait à Paris qui s'appelle Langston Hughes. C'est vraiment super intéressant. Ça montre une autre facette de cette scène qu'on ne connaît pas vraiment. L'article s'appelle « The Man Who Led the Harlem Renaissance and His Hidden Angers ». Donc c'est à propos de justement toutes ces passions cachées. Je vous recommande ça. Et si vous n'avez pas envie de le lire, ça s'écoute aussi en version audio, comme une sorte de podcast, voyez-vous. Donc,
J'aime pas les podcasts.
Mettez-vous ça dans les oreilles. Si vous avez envie de l'écouter, ça dure 28 minutes. Sinon, si vous avez envie de le lire à la plage, dans le métro et tout, ça se lit très bien et c'est cool. Voilà, c'est ce que je vous recommande de football et de la poésie.
Alors moi, c'est pas une recommandation Black Culture, donc ne criez pas, parce que c'est une recommandation c'est une recommandation Raciste Culture de Confédéré, donc ça marche en fait, ça passe. Donc en fait, c'est une mini-série qui s'appelle Sharp Objects, qui est adaptée d'un roman de Gillian Flynn, qui a écrit Gone Girl, et qui est réalisée par Jean-Marc Vallée, qui est le réalisateur de la série Big Little Lies et du film Wild. Donc en fait, Sharp Objects, c'est une mini-série qui raconte l'histoire de Camille Pricker, qui est incarnée par Amy Adams, une journaliste qui retourne dans sa ville natale de Redneck, qui s'appelle Wind Gap, pour enquêter sur 2 meurtres de jeunes filles. Mais du coup, elle-même, elle cumule aussi un peu les problèmes et les traumatismes. Elle vient tout juste de sortir de l'hôpital où elle était Elle était internée pour cause d'automutilation et sa maman est un peu une zinzin digne d'un roman gothique. Donc en fait, c'est un drame obsédant sur le passé, la famille, le racisme, parce qu'il fête le confédéré de la ville qui lui rend hommage. Les Noirs sont tous des domestiques. Enfin, c'est génial et ça, c'est censé se passer
en dans les temps modernes. Il y a un album Panini avec les racistes numéro 1 et tout.
C'est assez flippant. Et donc ouais, c'est aussi une critique de ça, du racisme du sud des États-Unis, du racisme moderne, quoi, un peu institutionnel. Personnellement, je trouve ça génial. Je pense que ça va tout rafler aux Émis. Je vous conseille de ne pas passer à côté. Alors, ça sort le 9 juillet prochain sur HBO et le lendemain sur OCS pour les gens sérieux. Et voilà quoi. Non, franchement, regardez Sharp Objects. C'est de la grosse
balle. Et comment t'as fait pour avoir avant tout le monde, Mélanie ?
Eh bien, figure-toi que je suis sur la liste des screeners pour HBO. Je les ai reçus en avance.
Ah hashtag bon. Les merdias.
Pardon. Ah ouais.
Voilà, voilou. Et ma deuxième recommandation, attention, c'est l'écran solaire, même si on est noir. Parce que même si on le sait, même Black Don't Crack, tout ça, mais en fait, les peaux noires ont besoin d'écran solaire. Et oui. Donc les meilleurs sont japonais et coréens. Je vous conseille la marque Biore. C'est pas cher et c'est chambé. Et moi, le mien, c'est de la marque Innisfree, qui est une marque coréenne, SPF 50, PA++. Voilà, donc c'est voilà, pas de rides. Non, franchement, on rigole pas avec la protection solaire. C'est très peu connu, mais dans la communauté noire, on a l'impression qu'en fait, on n'en a pas besoin, mais en vrai, si. Et checkez les blogs d'Internet pour avoir des références, si vous voulez. Et puis, voilà, aidez
les blogs d'Internet.
Mais oui, les blogs de l'Internet. Je vais mettre des références, si vous insistez. Mais voilà. Et surtout, voilà, aidez votre mélanine à prospérer. C'est ma recommandation pour cet été.
Les Renois sans la crème, hein, on sait ce que c'est.
Ah oui.
Ok, ben je crois que ça y est, c'est fini pour cette émission. C'est également fini pour la saison du Chip.
C'est le
season final.
Avec peut-être un bonus épisode. En juillet, on n'en dit pas plus.
Mais on n'en dit pas plus.
Enfin, j'ai envie d'en dire plus, mais on ne peut pas. Voilà.
Abdallah, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Bah, merci à vous pour l'invitation, c'était super.
Ah, ouais. Ça fait plaisir. Où est-ce qu'on te retrouve ?
Donc, sur l'oiseau bleu, c'est @abdallahsoidri, @abdallahsoidri, tout attaché. Et puis, bah, c'est là où on me retrouve, c'est là où je m'exprime le plus.
C'est la fin de cet épisode. Retrouvez-nous sur les réseaux, @lechippodcast, sur Twitter et Instagram. Laissez-nous 5 étoiles sur l'application Apple Podcast, s'il vous plaît. Pour ceux qui demandent dans les DMs, où est-ce que vous pouvez retrouver la plupart des recommandations de Chip, sachez qu'elles sont dans la description de chaque épisode. On met des petits hyperliens, vous pouvez retrouver tout ce qu'on vous recommande, que ce soit de la musique, des films, des séries, des choses comme ça. N'hésitez pas à retrouver les descriptions des épisodes. Je crois que c'est tout. Cet épisode a été réalisé par Samuel Hirsch. On lui fait des bisous.
Bisous.
On ne sait pas quelle équipe il va supporter cet été.
Bonnes vacances.
Nous, on le supporte.
Il n'a pas un nom très français. J'arrête pas de me dire avec ça. Tu vas nous dire pour qui tu sautes. Hein. Qui ne... Bref, voilà.
Bisous, salut.
Bisous.
Salut, salut.
Salut. Ouais.
Arte Radio.com